Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
C'est une nouvelle étape de franchie dans le risque d'embrasement de la région près de deux semaines après le bombardement mortel attribué à Israël d'un consulat iranien en Syrie. L'Iran a mené une attaque de drones et de missiles visant directement Israël. Mais alors, que s'est-il passé ce week-end? Pourquoi la situation est aussi tendue? Comment expliquer d'ailleurs plus largement la tension entre Israël et Iran? Et que pourrait-il se passer désormais? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est évidemment le sujet donc à la une des actualités du jour. Alors, avant de revenir sur les événements survenus ce week-end et analyser ce qui pourrait se dérouler désormais, posons d'abord le contexte. La République islamique d'Iran et Israël sont deux ennemis depuis longtemps, et pourtant ça n'avait pas débuté comme ça. Faut savoir qu'en 1950, l'Iran était même le deuxième pays musulman au monde à reconnaître l'État israélien. Mais en 1979, c'est la révolution islamique en Iran. L'Iran devient alors la République islamique d'Iran, et les deux États sont depuis ennemis jurés. Tout en évitant l'affrontement direct, les tensions vont donc se multiplier au fil des années. L'Iran va notamment soutenir plusieurs groupes, des groupes qu'ils soient politiques, armés ou terroristes, opposés tous à Israël. On peut penser au Hamas en Palestine, au Hezbollah au Liban ou encore aux Houthis dont on a déjà parlé, qui sont présents au Yémen. Et du côté israélien aussi, on multiplie les alliances, y compris avec des pays arabes pour se développer, mais aussi pour isoler l'Iran. Et on peut aussi citer des accusations d'attaque de navires par l'Iran ou alors l'attaque de cibles iraniennes en Syrie par Israël. Ces derniers jours, cependant, les tensions, elles ont pris un tournant particulier. On en a longtemps parlé dans ce format des actualités du jour il y a quelques jours. Le 1er avril, des bombardements attribués à l'armée israélienne ont touché le consulat iranien, autrement dit un bâtiment diplomatique iranien situé à Damas en Syrie. Le bilan, 16 morts selon une ONG locale, l'OSD, dont 7 militaires qui sont membres des Gardiens de la Révolution, une organisation paramilitaire qui est liée directement au chef d'État iranien. Alors, suite à ces frappes, l'Iran avait immédiatement réagi, promettant, je cite, de punir Israël pour ce bombardement. Et donc, on en vient aux dernières actualités. Dans la nuit de samedi à dimanche, l'Iran a tiré plus de 300 drones et missiles sur Israël. Il faut savoir que le risque d'une telle réponse était envisagé déjà par le gouvernement israélien. Et d'ailleurs, quelques heures plus tôt, Israël avait annoncé la fermeture de ses écoles. Mais alors, quelques jours après l'attaque du consulat iranien, pourquoi est-ce que cette nouvelle attaque est un fait marquant? Eh bien, c'est tout simplement déjà la première fois dans l'histoire que l'Iran attaque directement Israël sur le territoire israélien. D'ailleurs, pour certains, cela illustre un changement de doctrine de la part de l'Iran. En effet, le média Le Grand Continent, notamment, parle d'une doctrine de la nouvelle équation. Concrètement, jusqu'ici, on avait donc une forme de guerre de l'ombre discrète. Quant à aujourd'hui, on serait donc passé avec des contre-attaques possibles côté iranien, avec des frappes qui partent directement depuis l'Iran, sans passer donc par ses alliés. Bon, mais à noter au passage que tout cela n'a pas empêché justement ses alliés iraniens de participer, puisque les Houthis du Yémen ou encore le Hezbollah ont participé à ces frappes au même moment donc dans la nuit de samedi à dimanche. Alors là-dessus, l'armée israélienne affirme avoir pu contrer et empêcher 99% des missiles et des drones qui ont été envoyés par l'Iran. Évidemment, c'est un chiffre qui est dur à vérifier, mais effectivement, par rapport au nombre de frappes, eh bien, le bilan humain est relativement faible. Une jeune fille a été blessée par des éclats d'obus, mais autrement, les dégâts sont mineurs selon Israël. Alors, comment l'expliquer? Eh bien, c'est encore et toujours du fait du dôme de fer, ce système de défense aérien très efficace mis en place par le gouvernement israélien avec l'aide notamment des États-Unis. Un système de défense aérien qui a permis de stopper donc la grande majorité des frappes iraniennes. On peut noter par ailleurs que des alliés d'Israël ont aussi participé à cette défense. On peut parler évidemment d'abord des États-Unis, mais aussi du Royaume-Uni qui a intercepté certaines frappes, ou encore de la France qui a aussi participé au moins indirectement en quelque sorte, en bloquant des frappes qui menaçaient certains sites militaires que la France exploite dans la région. Alors, dans les heures qui ont suivi cette attaque, l'Iran a semblé vouloir temporiser dans un communiqué tout en demandant aux États-Unis de se tenir à l'écart. L'Iran a estimé que l'affaire, je cite, peut être considérée comme close, sauf si, je cite toujours, le gouvernement israélien commette une nouvelle erreur. La question désormais est donc de savoir si Israël compte répondre et si oui, comment. Alors, on ne va pas faire d'hypothèses ou de politique fiction sur un sujet aussi important, mais il y a quelques éléments de contexte qui peuvent aider à analyser la situation. Déjà, il faut comprendre qu'il y a une dizaine de jours, c'était donc le sujet à la une des actualités du jour, on vous expliquait que l'Iran allait probablement répondre à cette attaque donc de son consulat en Syrie, mais que l'Iran n'avait pas forcément intérêt non plus à entrer en conflit direct et ouvert avec Israël, et ce pour plusieurs raisons. Déjà parce que Israël est soutenu notamment par les États-Unis, ensuite parce que un tel conflit isolerait encore davantage l'Iran de certains pays de la région, et puis enfin parce que un tel conflit ouvert pourrait mettre en péril le développement par l'Iran de son programme nucléaire. D'ailleurs, selon plusieurs chercheurs, l'attaque avec plus de 300 drones et missiles est certes très impressionnante et elle est de fait inédite, mais l'Iran se doutait que les tirs seraient a priori interceptés par le dôme de fer qui protège Israël. De la même façon, du côté israélien, on n'aurait pas forcément intérêt à ouvrir un nouveau conflit, mais je vous renvoie à notre dernière vidéo donc qu'on a postée il y a 2 semaines sur ce sujet pour mieux comprendre pourquoi. Maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, il faut tout de même nuancer. D'abord, Israël pourrait tout de même choisir de répondre à ces frappes. La question est donc de savoir l'ampleur et la méthode. Est-ce que c'est une réponse, disons, contenue qui est plus limitée? Est-ce que c'est davantage une réponse directe avec, par exemple, une frappe sur le territoire iranien qui serait forcément plus risquée et qui ferait craindre une nouvelle escalade dans les tensions? Par ailleurs, depuis le 7 octobre, beaucoup estiment que le gouvernement israélien est dans une forme d'esprit de vengeance. Il faut avoir donc la proportion de cette éventuelle attaque. C'est en tout cas cette crainte d'un embrasement qui a poussé plusieurs pays du monde entier à réagir. Et évidemment, vous allez le voir, les déclarations, certes, elles reflètent les proximités plus ou moins marquées entre ces différents pays avec le gouvernement israélien, mais elles se rejoignent tous sur une volonté d'apaisement. Les États-Unis, alliés historiques d'Israël, a certes adressé son soutien, je cite, inébranlable au gouvernement israélien, mais en coulisses, Joe Biden a aussi appelé Israël à ne pas répondre avec une attaque directe sur l'Iran. La France, de son côté, apporte son soutien à Israël tout en appelant à la désescalade et à la retenue. Au-delà des pays occidentaux, eh bien, on peut parler du Qatar qui parle de sa profonde inquiétude, de l'Égypte qui appelle à la retenue maximale, même chose pour l'Arabie Saoudite, même chose pour la Russie ou encore la Chine qui ont tous les deux appelé à la retenue. C'est un mot relativement similaire de la part de l'Organisation des Nations Unies. Vous l'aurez compris donc, la tension pourrait retomber dans les prochains jours, comme elle pourrait aussi grimper très vite. Face à la menace donc d'une attaque israélienne, la France recommande aux Français de quitter l'Iran. Et ce week-end déjà, elle avait appelé à s'abstenir impérativement d'aller en Israël, au Liban, en Iran ou encore dans les territoires palestiniens. Enfin, justement, on continue à en parler sur la chaîne. En parallèle, la situation est toujours très critique à Gaza, avec ce risque de famine et cette situation humanitaire catastrophique alors que les bombardements israéliens se poursuivent. On vous tient au courant évidemment dans les prochaines heures.
Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec les déclarations d'Emmanuel Macron ce lundi matin sur RMC et BFM TV au sujet des Jeux Olympiques. La première chose à retenir, c'est que face au risque d'attentats terroristes, le président a assuré qu'il y aurait des plans B, voire des plans C pour la cérémonie d'ouverture qui doit avoir lieu sur la Seine à Paris. Si le risque est trop élevé, la cérémonie pourrait donc être déplacée au Trocadéro ou au Stade de France à Saint-Denis. Ensuite, Emmanuel Macron a promis que 1000 taxis seront accessibles pendant les JO pour les personnes à mobilité réduite, car le métro parisien ne sera, je cite, pas au rendez-vous. Troisième annonce, le président a de nouveau promis qu'il se baignerait dans la Seine sans préciser quand. Il a déclaré, je cite, que la Seine et la Marne seront un des plus gros héritages de ces Jeux, notamment à propos des travaux de dépollution de ces deux fleuves. Quatrième annonce, il a promis qu'aucune infrastructure construite pour les Jeux Olympiques ne serait laissée à l'abandon. Elles pourront donc notamment servir de logement ou encore de bureau après les JO. Enfin, Emmanuel Macron est revenu sur la polémique autour de la chanteuse Aya Nakamura et il espère qu'elle se produira sur scène le 26 juillet lors de la la cérémonie d'ouverture des JO. Il a par ailleurs dénoncé les propos racistes dont elle a été victime. À noter au passage, vu qu'on parle des JO, que la flamme olympique va être allumée ce mardi sur le site antique d'Olympie en Grèce, avant d'entamer un immense périple. Elle passera par une centaine de lieux emblématiques français pendant 68 jours, un périple qui débutera donc à Marseille le 8 mai. Deuxième actu en France, les témoignages MeToo à l'hôpital affluent sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. En fait, tout a commencé avec les accusations dans Paris Match de l'infectiologue Karine Lacombe sur les agissements de l'urgentiste Patrick Peloux, ancien chroniqueur de Charlie Hebdo, qu'elle qualifie de prédateur sexuel. Patrick Peloux a d'ailleurs réagi ce dimanche sur son compte Instagram, se disant, je cite, « sidéré par ce qu'il considère comme de la diffamation ». Alors après ces révélations, donc, les témoignages se sont enchaînés sur les réseaux sociaux. Ce sont ceux d'infirmières, d'aides-soignantes, de médecins ou encore de membres du personnel administratif de différents hôpitaux. Il faut savoir que l'année dernière, 8 femmes médecins sur 10 affirmaient avoir été victimes de comportements sexistes. 30% de ces femmes ont déclaré avoir subi des gestes inappropriés ou des attouchements et 17% des agressions sexuelles selon les chiffres de l'association Données des L à la Santé. Troisième actu, l'opération Wambushu 2, annoncée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en février, est censée débuter dans les prochains jours dans le département d'outre-mer de Mayotte. Pour vous remettre dans le contexte, Mayotte, c'est le département le plus pauvre de France, avec 80% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté, donc avec moins de 1102 euros par mois. Ces dernières années, de nombreux migrants venus du continent africain et des Comores, un archipel voisin, tentent de rejoindre clandestinement Mayotte. Et dans ce contexte de pauvreté très importante et de situation illégale pour certains, Mayotte est aussi frappée par une explosion de la violence, avec des agressions et des meurtres qui se multiplient sur l'île. Alors le gouvernement n'a pas annoncé beaucoup de détails sur cette nouvelle opération, mais comme pour le premier volet, elle aura trois objectifs, la lutte contre l'insécurité, contre l'immigration et le décasage des habitations illégales insalubres. Mais contrairement à la première, il s'agira d'une opération plus ciblée, avec des quartiers spécifiques et des dates fixées sur plusieurs semaines. En tout cas, elle est très attendue par les élus et la population, dans un contexte où les violences ont repris ces derniers jours. On suivra ça. Quatrième actu aux États-Unis, l'ancien président américain Donald Trump, à nouveau candidat pour la présidentielle de cette année, est jugé à partir de ce lundi pour 34 fraudes comptables dans le cadre de l'affaire Stormy Daniels. Si vous n'aviez pas suivi, en fait, Donald Trump est accusé d'avoir caché dans les comptes de ses sociétés un versement de 130 000 dollars destiné à l'actrice de film porno Stormy Daniels en échange de son silence pendant la campagne présidentielle de 2016. Stormy Daniels affirme avoir eu une liaison avec lui il y a quelques années. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le paiement lui-même n'est pas illégal. Ce qui est illégal, c'est de falsifier les documents commerciaux d'une entreprise. Donald Trump risque donc au maximum 4 ans de prison. En tout cas, c'est un procès historique puisque c'est la première fois qu'un ancien président des États-Unis est jugé au pénal, donc le processus judiciaire qui concerne les infractions criminelles ou délictuelles, comme le vol, l'agression, le viol ou le meurtre. De son côté, Donald Trump dénonce, je cite, une chasse aux sorcières menée par des procureurs et juges démocrates, donc du camp de Joe Biden, qui cherchent selon lui à saboter sa campagne. Cinquième actu, à partir de ce lundi, le contrôle technique est obligatoire pour les motos, les scooters, les voiturettes et les quads en France. Près de 2,5 millions de personnes doivent le faire dès cette année, selon Mobilience, l'organisation qui représente les professionnels du secteur. Le contrôle technique, c'est une inspection obligatoire effectuée sur les véhicules pour évaluer leur état général, leur sécurité et leur conformité aux normes environnementales. Jusqu'ici, il n'était pas obligatoire pour les deux roues et c'est donc ce qui change à partir de ce lundi. En gros, tout est vérifié. Les freins, le guidon, les feux, les pneus, mais aussi le bruit ou encore le bridage du véhicule, parce que beaucoup de scooters notamment sont débridés pour aller plus vite, ce qui est interdit. L'objectif du gouvernement avec ce contrôle technique obligatoire, c'est donc d'augmenter la sécurité sur la route. Sauf que cette mesure est très loin de faire l'unanimité, elle est très très critiquée chez les motards. D'ailleurs, plusieurs milliers d'entre eux se sont rassemblés ce samedi et ce dimanche dans toute la France pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme un racket, puisque chaque contrôle coûtera au moins 50 euros. Et puis selon la Fédération française des motards en colère, les accidents ne sont en général pas dus à l'état des véhicules, qui sont souvent bien entretenus par les motards, mais plutôt à l'état de la route. Enfin, on termine avec cette actu et c'est un autre changement qui a lieu à partir de ce lundi 15 avril. Les propriétaires de chiens qui n'attachent pas leurs chiens en laisse en forêt risquent désormais une amende de 750 euros. En fait, c'est pas quelque chose de nouveau, ça date d'un arrêté de 1955. Chaque année, entre le 15 avril et le 30 juin, les chiens doivent absolument être tenus en laisse, en tout cas en dehors des allées forestières. Selon l'Office national des forêts, l'ONF, sur les allées, les chiens pourront être sans laisse, mais à condition d'être, je cite, à moins de 100 mètres et sous le contrôle direct de leur maître. Alors pourquoi cette règle ? Eh bien, c'est pour préserver la faune de la forêt. En fait, cette période de 2 mois et demi, du 15 avril au 30 juin, correspond à la mise à bas des mammifères et à la nidification des oiseaux. L'objectif, c'est donc d'éviter que les chiens perturbent la reproduction de ces populations d'animaux.
Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube ou encore sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Vous le savez, le nom des comptes, c'est Hugo Décrypte. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.